Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sang.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les héroïnes. Dans cette émission, on va revenir sur la journée du 8 mars. On parlera des peines sardines de Douarnenez qui, il y a un siècle tout juste, menaient une grève qui a marqué l'histoire de la ville et du pays, auquel les collectifs féministes rendent hommage cette année. Et on écoutera le chant que leur a dédié Claude Michel, militante féministe, accordéoniste et parolière engagée, décédée en décembre dernier. On écoutera également l'interview de Rebecca Handler, réalisée par la journaliste de Canal B, Lucie Loipre, lors de la venue de la journaliste allemande à Rennes cette semaine, où elle a tenu une conférence sur le patriarcat des objets. Il y a une semaine, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, quelques 6000 personnes se sont retrouvées pour manifester dans les rues de Rennes au son de
« Nous sommes fiers, et féministes radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers.
Parmi la foule, j'ai rencontré un groupe de jeunes venus de Plélan-le-Grand et de Villejean. Et leur animatrice, Tiffaine Durand, je vous propose d'écouter leurs interviews.
Bonjour, moi je m'appelle Tiffaine Durand, je suis animatrice jeunesse et enfance sur Pimpon dans l'association L'Intervalle, c'est un centre social rural. Et on est là aujourd'hui avec un groupe de jeunes qui ont entre 13 et 16 ans, et le but en fait c'est que de participer à la manifestation. Et en fait on a créé tout un projet autour de ça où on a fait des ateliers donc pour parler des préjugés, des inégalités de genre, tout ça. Et en fait c'est parti d'un constat qu'on a eu avec mes collègues sur le fait qu'il y avait quand même des choses, des fois des petites réflexions pour rire, bah oui mais je vais pas faire la vaisselle, je suis pas une femme, tout ça. Et nous on voulait travailler ça avec les jeunes, et du coup on a réuni un groupe de jeunes qui étaient partants, et voilà, on s'est lancé dans le projet. On leur a demandé s'ils voulaient aller à la manif, et du coup ils étaient partants. Donc on a fait des pancartes, tout ça. Ils vous expliqueront un peu plus ce qu'ils ont fait tout au long de ce projet, qui n'est pas terminé d'ailleurs, mais là c'est un peu le rendez-vous fort du projet. Voilà.
Le point d'orgue, c'est d'être aujourd'hui 8 mars à Rennes pour la manif.
Ouais.
Et moi je voulais revenir sur ces petites réflexions pour rire, genre ouais, je fais pas la vaisselle, je suis pas une femme.
Ouais.
Ça, c'est encore très présent chez les jeunes ados.
Eh ben, en fait, c'est présent sans l'être, parce qu'ils ont conscience que c'est du sexisme ordinaire, ce qu'ils disent, parce qu'ils le disent après, non, mais c'est pour rire, je le pense pas. Mais il y a encore quand même des fois ces petites réflexions, parce que bon, sous l'humour, ça passe mieux, mais on sent qu'il y a quand même une évolution des mentalités, parce qu'ils ont conscience que c'est pas normal. Même quand on a eu des débats, ils avaient des réflexions en disant, mais c'est pas normal qu'il y ait des inégalités entre les hommes et les femmes, de salaire, tout ça. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui persistent, quoi.
Alors il y a aussi un partenariat, un jumelage,
ouais,
avec la maison de quartier de Villejean.
Ouais.
C'est laquelle maison? C'est maison de quartier de Villejean?
Oui, c'est la maison de quartier de Villejean, là, qui c'est pas maison verte, c'est l'autre. Je sais plus, on l'appelle juste la maison de quartier de Villejean, enfin voilà. On est avec Emma et Soukamba, du coup les deux animatrices jeunesse, et il y a 4 jeunes de la maison de quartier qui sont ici. Donc on a fait une rencontre en amont pour pouvoir parler de ces sujets-là, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, comment on s'organisait, tout ça. Donc on a fini les affiches ensemble ce matin, et donc les autres jeunes sont en train d'interviewer d'autres personnes dans la foule pour avoir un peu des ressentis, voir pourquoi les gens sont là, s'imprégner un peu de la manif, quoi.
Et est-ce que vous avez noté des différences entre les jeunes en milieu rural et les jeunes en milieu citadin?
Ouais, les jeunes, la première rencontre, on en a parlé un petit peu. Il y avait notamment la place des femmes dans les cités, dans les quartiers, qui était différente, vachement différente de nous, en fait, en milieu rural, où en milieu rural, il y a des femmes un peu partout. Mais après, il y avait du coup c'est des similitudes sur l'espace, l'occupation de l'espace par les femmes. En fait, en milieu urbain ou rural, c'est un peu la même chose. Et après, je me souviens plus tout ce qu'on s'était dit, mais il y avait quand même quelques similitudes et quelques différences, et notamment aussi avec il y avait la religion aussi qui rentrait en jeu, la place de la femme des fois dans la religion qui est pas la même, et c'est des choses ça que les jeunes nous ont ramené, mais du coup c'est des jeunes qui essaient de faire changer les mentalités et de faire comprendre que peu importe la religion, on peut très bien, on n'est pas obligé d'être ça n'excuse pas les comportements sexistes et tout ça, et que c'est pas la religion qui rentre en jeu là-dedans. Donc voilà, c'était vraiment la grosse différence qu'il y avait entre nous et entre le rural et l'urbain. Pardon.
Et donc, je peux aller leur poser quelques questions à ces jeunes.
Colin, Gwendo.
Ouais, on est là.
Colin, je suis curieuse de savoir ce qui t'a branché dans le projet proposé par Tiffen. Elle me disait qu'il y avait encore des réflexions pour rire, que c'était de l'humour, genre bah non, je fais pas la vaisselle. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet proposé par Tiffen ?
Bah déjà, là, moi, je suis plus là pour la minorité des genres, déjà, pour la manif. Et je suis là aussi dans le projet parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'égalité en tant qu'homme et femme. Du coup, bah, je me suis dit, bah, vu que c'est une manifestation pour les deux, je me suis dit, bah, autant participer.
T'as quel âge, toi, Colin ?
Et moi, j'ai eu 16 ans il y a un mois.
Et quelles inégalités te marquent le plus ?
Les salaires et la taxe rose.
Tu peux nous expliquer la taxe rose ?
Bah, par exemple, sur des lames de rasoir, les lames roses, même si c'est la même marque et tout, les lames roses elles vont être plus chères que les lames bleues.
Ça marche aussi quand on est plus petit avec les vélos, à partir du moment où c'est rose, c'est plus cher. Et tu disais les salaires. De t'imaginer que tes copines à poste égal, à diplôme égal, elles vont gagner moins que toi, ça t'énerve ?
Bah un peu, ouais, parce que en soi, elles font le même travail que moi, donc je sais pas pourquoi je gagnerais plus qu'elles.
Bonne manif, Colin.
Merci.
Bah, bonjour, moi c'est Ambre. Je suis de l'espace jeune de Plélan-le-Grand. Et du coup, je fais partie de ce projet monté par Tiffen et Sarah. Car l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est important qu'elle n'est pas là partout. Donc.
Il faut encore lutter pour l'obtenir partout.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui te choque le plus, toi, dans les discriminations ou les inégalités que tu peux, dont tu peux, toi, souffrir ou que tu peux constater ?
Après, à propos de mon sexe, j'en ai pas vraiment beaucoup eu. C'est plus plus raciste, mais c'est pas... Voilà. Mais après, Colin, il a déjà dit à quoi je pensais. Donc, les taxes roses, parce que du coup, la teinte rose est plus difficile à obtenir, donc ça revient plus cher pour les filles. Et
est-ce que t'es au lycée ou au collège ?
Je suis au lycée.
Au lycée, est-ce que quand t'étais au collège ou à l'école élémentaire, t'avais remarqué des choses, soit dans la cour, soit dans la prise de parole en classe ?
En fait, la cour, elle est plus occupée par les garçons. Et quand on veut aller dessus, parce que du coup, le terrain de foot, il prend beaucoup de place. Donc, quand les garçons, ils veulent aller dessus, quand les filles veulent aller dessus, on se fait engueuler par les garçons. Donc, c'est un peu relou.
Et c'est important pour toi d'être ici, 8 mars, à Rennes, pour manifester ?
Ouais.
C'est la première fois ?
Oui.
T'as hâte ?
Oui.
Bonjour, je m'appelle Gwendoline. J'ai 16 ans et j'habite à Plélan-le-Grand. Et je suis au lycée de Rostrena à Rosa Parks. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet proposé par Tiffen et Sarah ?
Le fait de faire une manifestation, du coup, pour défendre les droits des femmes, nos droits, du coup.
Ça t'a plu ? Tu t'es dit, je veux participer à ça ?
Ouais. En plus, j'avais jamais fait de manifestation avant, donc voilà.
Donc c'est ta première, t'as fait un vœu, t'as fait des pancartes. Attends, fais voir. Ouais. Pas besoin de talons pour être à ta hauteur. Et passez vos... rasez vos préjugés au lieu de mes poils. Qu'est-ce que t'en penses, justement, là, de toutes les injonctions qui sont faites sur le corps des femmes. Il faut être comme ça. Alors si t'es pas maquillée, ça va pas. Si t'es trop maquillée, ça va pas. Si t'es, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ?
C'est pas bien, parce que faut pas avoir ce genre de préjugés, parce que c'est après, sinon on va être tous pareils et tout, on va ressembler à des robots, comme disent certains. Et chacun est différent à sa manière et c'est beau, ça.
Et vous avez rencontré donc des jeunes de Villejean. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez échangé ?
Ça faisait bizarre de voir une autre génération, du coup, différente des autres.
C'est-à-dire, ils ont un âge différent de vous ou
Oui, ils ont un âge différent de nous et je me suis comparée à eux à leur âge en fait. Par exemple avec Megumi Zico et tout, que j'écoutais pas les musiques, pas de rap et tout, voilà. Ouais.
Ok, merci Gwendoline.
Janelle. Bonjour, je m'appelle Janelle, j'ai 12 ans et j'habite à Rennes, à Villejean. Je viens à la maison de quartier jeunesse et on a eu le projet féministe de venir pour la grève du 8 mars pour défendre nos idées et la journée des droits de la femme.
Est-ce que toi, tu souffres de sexisme ou de discrimination, même si c'est des petites choses au quotidien, est-ce que... T'as constaté comme ça des choses qui te plaisaient pas ?
Je dirais plutôt vers la primaire. Dès l'enfance, ça commence les jouets. Tu joues aux Barbie, pas aux voitures. Tu mets des robes, pas des pantalons. Des trucs qui sont un peu qui sont banalisés. Enfin, on l'a tous vécu, je pense.
On l'a tous vécu, mais tu l'as vécu toi alors que tu n'as que 12 ans. On pourrait imaginer que les choses aient un peu changé depuis le temps qu'on se bat contre et en fait rien ne change.
Il y a quand même des améliorations, ça c'est sûr, mais c'est vrai que c'est encore un peu compliqué.
Et à la maison de quartier Villejean, qui a mis le projet en place là-bas avec vous ?
Emma, une des deux animatrices, parce que je pense que comme beaucoup de gens, ça touche ça la touche.
Est-ce que dans votre groupe il y a des garçons ?
Ouais, mais il y a pas de garçons présents aujourd'hui. Ils n'ont pas fait le projet.
Pourquoi ils n'ont pas voulu ? Ça les intéresse pas ? C'est...
Je sais pas. Apparemment, selon eux, les inégalités n'existent pas entre guillemets, donc ça les tenait pas vraiment à cœur.
Ils considèrent que il n'y a pas d'inégalité entre filles et garçons et que donc ça ne sert à rien de se battre pour obtenir plus de choses, plus de droits pour les femmes.
Ouais.
Tu as envie de leur répondre quoi quand, peut-être que tu leur as répondu quand ils ont dit ça.
Je pense qu'ils devraient plutôt s'ouvrir au sujet parce que même s'ils n'en sont pas victimes, ça existe quand même. Il y a très peu de gens très ouverts sur ça, surtout les garçons, donc c'est important de s'intéresser au sujet quand même, même si on n'en est pas victime.
C'est quand même... C'est ta première manif aussi ?
Ouais.
T'es contente ?
Ouais, j'ai hâte.
C'est très festif. Enfin, il y a une partie du cortège qui est très calme, puis après c'est très festif.
Ça va être cool.
Alors, moi, j'ai vu votre badge, là. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs qui l'ont.
Ouais, on a tous,
Vous l'avez fait exprès, ce badge, ouais. Pour le projet ?
Oui.
Ouais. Vous pouvez me le décrire ? Julie, tu...
C'est une balance.
Vas-y.
C'est une balance et c'est un homme, une femme. Je sais plus c'est lequel. Une femme.
Alors, l'homme, c'est la flèche qui part en haut.
Okay.
Et la femme, c'est la croix
c'est
en bas.
C'est pour l'égalité, une balance qui est comme ça. Voilà.
Et donc, toi, Julie, tu fais partie du projet à Plélan ? Et qu'est-ce qui t'a plu quand Sarah et Tiffaine vous l'ont proposé ?
Ce qui m'a plu.
Ouais. Pourquoi t'as décidé d'y participer ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a motivé pour y participer ?
Pour défendre le droit des femmes. Et voilà.
Et est-ce que toi, tu constates tous les jours ou souvent des inégalités que tu trouves vraiment injustes ou qui t'énervent ?
Parfois, oui.
Lesquelles ?
Je sais pas, par exemple, les trucs garçon-fille, bleu et rose, là. J'aime pas les couleurs.
On appelle ça le marketing genré. Je demandais tout à l'heure à une des filles qui sont avec toi là, si ce qu'elles pensaient des injonctions qui sont faites aux filles sur leur tenue, sur
ça m'énerve.
Ça t'énerve?
On peut pas sortir comme on veut, tout ça. Sinon on se fait juger ou parfois des attouchements, tout ça.
Et c'est pas normal.
Non.
Qu'est-ce que t'attends de cette manif aujourd'hui?
De faire changer les choses. Essayer au moins.
C'est ta première manif?
Oui.
T'es contente d'être là?
Ça va. Ça veut dire oui pour Julie.
D'accord. T'es super contente en fait. Merci Julie.
De rien.
Tu peux prendre des photos de vos...
Des photos des pancartes?
C'est vrai qu'on a des amis. Hein.
Attends, j'arrive pas à mettre...
Souris.
Écoutez, oui, la manif.
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces fameuses se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les fameuses sont fières.
Dans la ville rouge on est solidaires, et de leur victoire les fameuses sont fières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Adouarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Adouarnenez depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Écoutez le bruit leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez le bruit leurs sabots, c'est la victoire des sardinières.
Les peines sardines dans Les Héroïnes sur Canal B. C'est un chant militant écrit et composé par Claude Michel, décédé en décembre dernier. À 23 ans, Claude Michel est atteinte de tuberculose et elle va se retrouver toute seule avec ses quatre enfants après le départ un peu subi de son mari. Elle va adhérer au mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception de Gisèle Halimi et elle fut à l'origine, plus tard, de la création de l'association Abricotier Urgence Femmes dont on trouve aujourd'hui des antennes à Concarneau, Quimper ou encore Quimperlé. L'histoire de sa chanson, c'est celle des ouvrières d'usine de conditionnement des sardines de Douarnenez, les Peines Sardines, qui, en novembre 1924, vont entamer la grande grève pour demander une revalorisation de leur salaire. Elles gagnent alors 16 sous de l'heure, travaillent 10 heures par jour, mais peuvent enchaîner 72 heures de suite alors que c'est interdit. Elles sont en fait tributaires des marées, des retours des bateaux de pêche, du déchargement des sardines. Elles doivent attendre, être toujours prêtes. Ainsi, elles peuvent aussi travailler de nuit, ce qui est interdit aux femmes à l'époque. Très vite, elles sont 2100 grévistes de toutes les 21 usines que compte alors la ville rouge, Douarnenez, et elles réclament 25 sous, en vain. De Douarnenez, leur grève va avoir un écho national. Après 46 jours de grève, le 8 janvier 1925, les peines sardines finissent par obtenir que toutes les heures de présence à l'usine soient payées, une revalorisation de salaire à 1 franc, une majoration de 50% des heures supplémentaires et du travail de nuit. En 2001, la réalisatrice Marie Elia a produit le court-métrage documentaire « Les filles de la sardine » autour des peines sardines dont on entend certaines parler. Et je vous propose d'en écouter un extrait.
Ça, c'est la grève en 1924, un défilé dans la rue Jean Jaurès, parce que les femmes arrêtaient à l'usine pour défiler tous les jours. C'était la grève des femmes, hein. C'était la grève des femmes. Ils demandaient 25 sous l'heure. Et au bout de 5 semaines, elles ont eu. Mais ça fait beaucoup de bruit à Douarnenez.
Les filles de Carnot avaient dit, il nous faut 25 sous. Alors on avait dit aussi, eh bien, Pemrel. Pemrel, c'est 25 sous. Et alors on a fait des grèves. Combien de temps qu'on a été? Oh, près de 2 mois, hein. Près de 2 mois, en train de faire des tours autour de la ville, partout, en chantant Pemrel, à vous, Pemrel. Et alors, on ne nous accordait pas.
Ça chantait l'international, hein?
Ah, oui.
On attendait ça, je ne sais pas de où.
L'international.
Il y avait une femme et le drapeau rouge, hein.
Pemrel à vos, Pemrel à vos, Pemrel. Pemrel à vos, Pemrel à vos, Pemrel. Béziers à l'eau, macro. Béziers à l'eau, Béziers à l'eau, macro.
Je te dis, on avait quand même.
Oui, il y avait quand même mon arrière-tante, donc de la voir là, raconter sa vie, alors que je ne la connaissais pas vraiment, hein, sa vie à elle. Quand je vais la voir, c'est pour lui dire bonjour, pour savoir comment elle va, pas pour parler du passé. Donc quand on les entend dire qu'elle travaillait 70 heures dans la semaine, que nous, on est arrivé à 35, Si en l'an 2000, on est arrivé à 35, en 2050, on sera peut-être à 20, hein, avec un peu de chance.
Ou à zéro.
Ou à zéro, oui, avec un salaire 39 heures, c'est pas mal. Mais c'est vrai, c'est bien ce qu'elles ont fait, parce que ça nous a permis à nous, maintenant, d'être là où on en est. Mais aujourd'hui, non, s'il y en a une qui descend dans la rue, les autres ne vont certainement pas suivre, parce qu'elles ont peur. Et peut-être que j'aurais peur aussi dans ces cas-là. Si on me demandait de faire une révolution, je réfléchirais peut-être à deux fois. Hein. C'est pas parce que tu pars quelque part que t'es sûr de revenir. Et puis le résultat, il est le même à la fin du mois, c'est qu'il faut quand même payer ce que t'as à payer. Donc c'est un risque à courir. Hein. Elles ont eu beaucoup de courage de le faire, surtout que ça a duré.
Vous retrouverez le lien vers ce court-métrage documentaire de Marie Elia, produit en 2001, sur le blog des héroïnes, sur le site de Canal B. Mardi dernier au Tambour à Villejean, dans le cadre des événements organisés pour le mois des femmes à Rennes et des mardis de l'égalité, la journaliste allemande Rebecca Handler donnait une conférence autour du patriarcat des objets. Lucie Loipre, journaliste à Canal B, l'a rencontrée.
Rebecca Handler, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste, autrice, podcasteuse, vous êtes allemande, on va l'entendre à votre accent, et vous êtes surtout l'invitée du prochain mardi de l'égalité. Les mardis de l'égalité, c'est un cycle de conférences qui est proposé par le service culturel de l'université Rennes 2. Et là, pour ce mardi de l'égalité, il faut se dépêcher et courir au Tambour avec une conférence qui débute à 18h ce mardi 12 mars. Le patriarcat des objets, c'est le livre qui sera au cœur de cette conférence, un essai qui est sorti en 2022 aux éditions d'Alva et qui pose la question suivante: pourquoi le monde ne convient pas aux femmes ? Quelle a été votre entrée dans le sujet ? Est-ce que c'est d'abord peut-être même des observations personnelles qui vous ont amené vers ces questions ?
Pas du tout, non. En fait, j'aimerais bien répondre oui. En fait, ça m'a travaillé toute ma vie. Je me suis rendu compte que effectivement, ça m'avait travaillé toute ma vie, mais c'était pas du tout à la base de l'idée du livre. Je devais faire un reportage sur la Potty Parity de 5 minutes pour une radio. Et Potty Parity, c'est un mouvement britannique qui essaie justement de faire en sorte que les toilettes publiques sont designées d'une façon qui soit équilibré pour personnes de tout genre. Et donc, ça reporte pas rien que sur, par exemple, le même nombre de mètres carrés, parce que sur, disons, 8 mètres carrés, il y a beaucoup plus de pissoirs qui tiennent place que de WC des toilettes assises. Et après, on peut poser aussi la question, est-ce que les toilettes assises sont un design qui est apte pour les WC publics? Ma réponse, ce serait non.
C'est pas très engageant, ça donne pas toujours envie.
Rarement, je dirais même, oui. Et donc, oui, il y a plein de questions comme ça qui se sont posées là-dessus. Et je me suis très vite rendu compte que 5 minutes, ça me suffisait pas, parce que j'ai trouvé une experte, une professeure de design industriel qui était spécificiée là-dessus et qui travaillait depuis 20 ans, Bettina Möllring. Et tout ce qu'elle m'a raconté, je me suis rendu compte qu'en fait, la situation des WC publics, c'était lié à l'histoire du patriarcat, l'histoire de la canalisation des villes, tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais faire une heure de radio publique en Allemagne sur l'histoire des WC. Et personne n'a voulu ça. Et tous les magazines pour lesquels j'écris, tout le monde a refusé parce qu'on disait, ouais, c'est que le pipi, c'est pas assez important, ça a aucune importance sociale, politique. Et moi, en fait, je me rendais compte que c'était l'inverse, quoi, que c'était un sujet justement qui touche à toute personne et qui est important. Et donc, ouais, en fait, ça m'a mis furieuse. Et le seul moyen de canaliser toutes mes recherches, en fait, c'était un livre. Et je me suis très vite rendu compte que, oui, les toilettes, c'est un sujet, mais en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. Et n'importe dans quel espace j'ai regardé, soit le travail, la médecine, les vêtements, tout, il y a du design patriarcal partout, parce que toutes les choses, en fait, même les choses, les idées pensées aussi, sont pensées par, en majorité, un homme cisgenre, blanc, valide, nanana, 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 donc ça s'achève.
Et... un homme qui a cet homme modèle qui a 40 ans, qui mesure 1m85, qui fait 70 kilos, et cet homme-là est la mesure de toute chose. C'est ce qu'on lit en quatrième de couverture donc de cet ouvrage, Le patriarcat des objets. Et malheureusement, cela entraîne des désagréments pour au moins la moitié de l'humanité. Depuis quand est-ce qu'une majorité d'objets sont conçus par et pour des hommes ? Est-ce que ça a à voir avec l'industrialisation de la production d'objets ? Est-ce que c'est plus ancien, plus ancré que ça ?
C'est plus ancien, mais c'est vrai que l'industrialisation a...
amplifié ?
Oui, amplifié, a speedé les choses. C'est vrai qu'avec tous les produits, tout d'un coup, qui sont venus sur le marché, oui, c'était encore plus ancré le design patriarcal. Mais quand on regarde, par exemple, l'histoire des vêtements... même pré-industrialisation, on se rend compte, l'histoire, je sais qu'en France, il y a eu aussi des grands débats, comme d'ailleurs dans tous les pays, sur l'histoire des poches et pourquoi les vêtements pour les personnes féminines, ça manque de vraies poches, tout ça. Et là, quand on regarde, on se rend compte en fait que l'histoire du patriarcat est plus ancienne et ancrée aussi dans justement des choses comme des poches ou alors des modes de véhiculer.
Comment on dit ? Des moyens de transport ?
Voilà !
Des exactement. Moyens de transport.
Je me disais, c'est presque, mais c'est pas tout à fait ça, oui.
Vous appuyez pour développer cette réflexion sur des études menées à l'international. Alors, c'est souvent une affaire de taille et de détail, lit-on dans un article de Libération qui a été consacré à votre ouvrage. On l'a dit, le modèle de référence pour concevoir des objets, c'est cet homme cisgenre. On va commencer par le sujet des vêtements, puisque vous venez de l'évoquer. Des poches minuscules sur les pantalons féminins aux uniformes qui là vont plutôt avoir tendance à flotter. Globalement, la conséquence, c'est que les femmes s'habituent à l'inconfort dans leur tenue.
Oui, à l'inconfort, et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt derrière tout ça. C'est pas une coïncidence en fait. C'est que au début, pré-industrialisation, donc on parle du 18e siècle, en fait, il y avait peu d'espace privé, donc les peu de choses qu'une personne avait, elle les portait sur elle. Et donc on avait comme des sacoches que nos ancêtres portaient en dessous de leurs vêtements, qui les protégeaient justement de vol, tout ça. Et ça, avec un changement de mode pour les femmes, en fait, tout d'un coup, les vêtements étaient... on a enlevé les crénolières, tout ça, c'était du passé. Ce qui est bien aussi, parce que les crénolières, ça prenait feu, ça causait des accidents mortels pour des femmes. Donc, mais à la mode, tout d'un coup, c'est venu une statuette qui était très proche de la figure. Et justement, ça a enlevé tout moyen pour porter des choses sur soi. Et quand on pense à ce que les personnes... prenait avec elle, en fait, c'était soit un couteau, de l'argent, des choses qui peuvent nous donner la possibilité d'aventure, je dirais. Mmh. On n'est pas obligé de rentrer à la maison parce qu'on a de l'argent sur soi. Et ça, c'est vraiment un choix qu'on a essayé de remettre les femmes dans la domesticité, de dire vous n'avez aucune place dans la vie publique, et c'est ça qui est lié aux poches. Et donc, quand on se rend compte que c'est pas une question de, oui, il faut dire aux designers, aux designeuses, si vous avez besoin de plus de poches, il n'y a qu'à mettre plus de poches. Mais quand on se rappelle, en fait, qu'il y a une histoire qui traverse plusieurs centaines d'années pour nous amener là, ça explique un petit peu l'idée qu'il y a derrière.
Sur le sujet des uniformes, donc des uniformes plutôt liés à des autorités, aux forces de l'ordre, mais aussi dans les tenues sportives, les femmes se retrouvent avec des vêtements qui les empêchent, en fait.
Oui. Alors, y a une histoire qui est déjà vieille, mais ça n'a pas changé jusqu'à présent. C'est que, par exemple, les vestes de protection qui font part des uniformes de policiers, bah, elles sont designées pour une personne qui n'a pas de sein. Mais il y a beaucoup maintenant de forces de l'ordre, des personnes avec des seins. Et en fait, l'inconvénient, c'est non seulement elles ne sont pas confortables à porter, mais il y a aussi un risque de sécurité. Et même chose pour, par exemple, les chaussures de football. moi, je ne savais pas, parce que je ne joue pas de foot, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas vraiment des chaussures de foot pour femmes. Bien sûr, ça existe. On peut aller dans un magasin et trouver de Nike ou Reebok, tout ça, des chaussures pour femmes. Mais après, de se rendre compte qu'il n'y a aucune science derrière, en fait, que c'est des chaussures qui ont été développées pour un talon cisgenre masculin. Et que, oui, c'est vrai, les corps, il y a des différences. Il y a des différences au niveau de blessures, par exemple. Le jeu se joue différemment. Et donc, il faudrait des chaussures qui sont développées spécialement pour ça. Et ça se fait maintenant. Ça, c'est aussi un gros atout, en fait, de l'Internet, avec tous ces désavantages que ça.
Mais il y a
ça
des campagnes de financement participatif.
Voilà, ça a diversifié les moyens de financer des nouveaux designs. Donc, il y a plus de designs populaires qui ont aussi accès à leurs clients à travers Internet.
Pour des projets à plus petite échelle, en fait.
Exactement. Et on voit ça non seulement pour les produits féminins, mais on voit ça aussi beaucoup pour les produits qui sont designés pour des personnes avec handicap, en fait. Ça ne se faisait pas du tout. Et ça, maintenant, il y a des trucs pour éplucher. Il y a plein de choses. Ça s'est vachement diversifié. Et c'est grâce à l'Internet, en fait.
Il faut dire, là, on le comprend, que évidemment, il est question de féminisme, mais que vous élargissez la réflexion à des enjeux aussi d'homophobie, de transphobie, de racisme ou de validisme. On va passer au mobilier qui nous entoure dans notre quotidien. Et parmi les objets qui répondent à des besoins primaires, il y a surtout les toilettes. On résume ainsi, il n'y a pas assez de WC publics en France, mais comme ailleurs en Europe. Et les femmes ne peuvent pas, ou en tout cas difficilement, uriner contre un arbre. On se retrouve à être entre deux voitures, expérience commune partagée par plein de filles et de femmes. Là aussi, l'espace public n'est pas pensé pour les femmes.
Oui, mais ça, c'est aussi une question. Je m'étais jamais rendu compte, mais en fait, j'ai lu des interviews avec des sex workers des années 80 qui travaillent dans les rues et qui, elles ont appris à pisser debout parce qu'elles devaient le faire. Donc, en fait, la façon dont on pisse, c'est aussi une pratique culturelle qui s'apprend. J'ai essayé à apprendre ça à ma fille aussi, mais elle a appris. Mais après un certain âge, c'est vrai qu'il faut dire que les vêtements ne sont pas faits pour ça. Donc, il faut changer aussi la façon de penser les choses.
Alors avant de savoir si toutes les petites filles vont devoir apprendre à faire pipi debout ou si la société va enfin se réveiller et leur accorder plus de toilettes publiques par exemple, suspense intenable, on va faire une nouvelle pause musicale sur Canal B dans les héroïnes. On va écouter Laura Cahen, Nuit Forêt.
Je crie dedans, tu ne m'entends jamais. la nuit je m'en vais. Je mens quand je crie. J'écris sans regret. La dernière nuit, c'est la nuit forêt. Tu sens le fusil. Soudain tu renais.
Laura Cahen, Nuit Forêt sur Canal B dans Les Héroïnes. On va retrouver Lucie Loipre et Rebecca Handler qui parlent patriarcat des objets et plus particulièrement à cet instant de l'interview de pipi et de filles qui pissent debout.
Et ça amène quand même, on peut le dire, une vraie question de santé publique en fait, de devoir tout le temps se retenir. C'est là qu'il y a des enjeux importants qui se cachent derrière les objets.
Ah oui, tout à fait. Et même la question de pipi, là en ce moment, on s'en rend compte. J'étais toute l'année dernière en Turquie et donc il y a eu le tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Et c'est là, à travers plein d'organisations féministes, en fait, que j'ai recueilli plein de récits de femmes qui me disaient, avant, toute cette question, ça les travaillait pas vraiment parce qu'il y a des mosques, il y a beaucoup plus de WC publics en Turquie qu'il n'y en a pas en France ou en Allemagne.
Dans les mosquées.
Voilà. Mais après le tremblement de terre, tout ça, c'était plus, ça comptait plus, ça n'existait plus. Et c'est là qu'on se rend compte que les personnes qui ont leurs règles, les menstruations, les personnes qui sont enceintes, les enfants, les vieilles personnes, tout ça, c'est des sujets féministes au sein. Et c'est au moment où, là, en ce moment, en Gaza aussi, on voit beaucoup de récits de personnes qui ont leurs règles, qui sont enceintes et qui n'ont pas accès aux toilettes publiques parce qu'il n'y en a pas ou parce que, bien sûr, un homme cisgenre peut faire pipi partout et il peut même, comment on dit, faire caca pour en adulte.
Déféquer ?
Voilà. Il peut déféquer quelque part où justement il n'y a pas le risque de se faire aussi insulter parce que il y a plein d'études internationales qui ont démontré que les personnes qui n'avaient pas accès aux toilettes, en fait, il y a un risque pour les femmes ou les personnes lues féminins de se faire agresser sexuellement, qui est vachement plus élevé que si une personne a un accès à un WC, à une toilette. Donc c'est en fait c'est une question de droits d'homme,
et
de
femme. Et un sujet majeur, on le comprend. Toujours dans une ville qui est pensée pour les hommes, on dit un mot au chapitre mobilité. Donc on va parler voiture. Jusqu'en 2010, les mannequins de crash test étaient conçus sur un modèle masculin. Et le résultat, alors pas que de l'histoire des mannequins de crash test, mais du fait que les femmes ne soient pas prises en compte lors des études, eh bien elles, au volant, elles ont plus de risques d'être blessées que les hommes. C'est assez fou et c'est encore le cas, ça.
Oui, c'est encore le cas. Vous disiez 2010, en fait, c'est toujours l'actualité. C'est que maintenant, il y a un mannequin crash test qui est plus petit que l'autre mannequin, mais c'est pas un modèle qui...
C'est un modèle réduit, mais voilà. Pas avec des spécificités anatomiques féminines.
Voilà, et c'est si souvent le cas. Souvent, les produits... soit la voiture, la chaussure de football, le VTT, les skis, en fait la liste est très très longue, des produits qui sortent pour femmes, en fait, c'est juste un modèle réduit, aussi souvent d'une plus mauvaise qualité que le produit pour hommes. Et pour la sécurité des voitures, en fait, c'est choquant parce que jusqu'en 2010, il n'y avait même aucune enquête, aucune recherche qui prenait le genre de la personne en compte pour les dates d'accident. Et ça fait que, oui, on véhicule tous dans des voitures qui sont construites pour la sécurité maximum pour un homme cisgenre de 40 ans, parce que ça discrimine pas uniquement les femmes, c'est aussi les personnes âgées, c'est les personnes qui sont grosses, les personnes qui ont des maladies, les enfants. Donc il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas prises en compte. Et la seule raison pour laquelle c'est comme ça, en fait, c'est le capitalisme. Et c'est là les, comme on dit,
des rouages.
Voilà, le rouage entre le capitalisme et le patriarcat se démontre parfaitement avec cet exemple, parce qu'on pourrait penser des voitures modulaires qui, justement, prennent la personne qui les conduit, la personne qui est dedans, en compte. Mais ce n'est pas du tout le cas. Même pour une chose aussi, je dirais, banale que les ceintures de sécurité, eh ben, il n'y a toujours pas de ceinture de sécurité qui accommode, par exemple, pour les personnes qui sont grosses ou les personnes qui sont enceintes. Tout ça n'existe pas, mais ce n'est pas parce que ça ne pourrait pas exister, ça pourrait très bien exister, mais il n'y a aucune volonté au niveau des constructeurs d'automobiles de vraiment prendre de l'argent en main, parce que toutes ces recherches, tout ça, ça coûte, c'est vrai, c'est des choses qui sont chères, mais il n'y a aucune volonté aussi.
On nous avance aussi des économies d'échelle, et que d'avoir un modèle standardisé, c'est plus rentable que d'avoir des objets qui vont être à destination d'un public plus restreint. Là, on parle quand même de la moitié de l'humanité.
Donc. Ah oui ? Oui, c'est ça, mais c'est parce que, à mon avis, c'est pas le capitalisme en lui-même, c'est pas les constructeurs d'automobiles qui vont changer ça. Là, il faut une volonté politique, parce que, par exemple, dans l'Union européenne, il y a des standards de tests de mannequins, un crash test, que chaque véhicule qui sort sur le marché doit avoir passé ces 5 tests, nanani, nananer. Et donc là, en fait, l'Union européenne, qui a tellement de plaisir à réglementer les patates, les carottes, tout ça, elle pourrait prendre ça plus au sérieux et demander justement que toutes ces variables-là soient aussi reconnues, les diversifiements de
la diversification,
voilà, de l'humanité soient prises en compte pour la sécurité automobile.
Il y a en tout cas un mouvement de designers qui aujourd'hui imaginent des objets pour d'autres publics que les hommes cisgenres. Je ne l'ai pas dit, mais on redit cisgenre, donc une personne assignée homme à la naissance et qui se reconnaît comme telle. Si on revient au sujet des toilettes, il y a des urinoirs féminins qui ont été créés, vous l'avez évoqué en tout début d'échange. Ici en France, on a par exemple vu apparaître des urinoirs féminins, notamment en festival, toujours un peu vu comme une curiosité, mais ça se développe. Et alors quand même, le risque d'avoir un intérêt pour le public féminin dans la conception d'objets, c'est d'avoir des industriels qui font du pink washing, qui vont réduire le modèle, aller mettre quelques fleurs, un peu de rose, des paillettes.
Parce qu'on aime tous ça. C'est trop beau.
Ce n'est pas ce que les femmes recherchent, a
non,
priori.
Non.
On veut du pratique.
Oui, on veut des choses qui sont faites pour nous et qui ne mettent pas nos vies en danger. Voilà. C'est simple, en fait.
Il y a quand même des enjeux plus grands qu'une question pratique, justement, qui se cachent derrière la conception de ces objets, puisqu'inviter à un design plus inclusif, ça permettrait aux femmes, mais aussi à d'autres publics, d'accéder à de nouveaux espaces, d'assumer des tâches considérées comme masculines. On a parlé du football, mais ça peut aussi être de pouvoir monter dans un tracteur quand on est agricultrice, de porter des charges lourdes si elles sont divisées et pensées pour.
Ouais. Parce que ça, c'est aussi souvent ce que j'ai entendu à travers tous les interviews que je donnais. Il y avait toujours un mec qui disait « Oui, mais si vous voulez l'égalité, il faut aussi travailler la construction, tout ça. Les femmes, elles ne veulent pas se salir les mains. » Mais c'est vrai que dans l'agriculture, dans la construction, toutes les machines, même dans les usines, tout ça, les machines, elles sont confectionnées, elles sont faites pour un homme cisgenre. Donc même une chose aussi simple, par exemple, qu'une brique, en fait, la brique, elle a des mesures qui ont été
imaginées ou
pour
une main, une paume d'homme.
Une paume, voilà, pas une paume, une paume d'hommes. Donc, même où les éboueurs aussi, c'est quelque chose. À chaque fois, l'argument, vous n'avez qu'à travailler aussi les éboueurs, tout ça. Mais il faut se rendre compte que le camion des éboueurs aussi, il est fait, la taille des poubelles, tout ça. Tout ça, il y a une pensée que ça a été fait pour des hommes. Donc, à mon avis, il faut aussi changer ça avant de dire bah oui, mais vous avez qu'à faire. Parce que quand on regarde au niveau international, il y a à peine 6% par exemple de femmes dans le cockpit d'un avion. Et c'est pas parce que les femmes, c'est un métier qui est très bien payé, donc il y a un statut. C'est pas comme si les femmes ne voulaient pas voler des avions, mais c'est que le cockpit design a été fait pour un homme, et que c'est vachement difficile, même juste au niveau du corps,
d'accéder à certaines parties voilà. Sur le tableau de bord, etc.
Voilà. Et oui, c'est fâcheux, quoi.
Je pense que même sur le design pensé pour les hommes, il y a aussi un truc très viriliste. Je repense à l'agriculture ou au BTP, où les hommes eux-mêmes peuvent se faire mal à la tâche, avoir des douleurs sur du port de charges lourdes parce que c'est encouragé et bien vu, valorisé pour un homme, quoi.
Ah oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte aussi, il y a par exemple des scies électriques qui ont été designées pour des femmes cisgenres, et on s'est rendu compte après, une fois qu'elles ont été sur le marché, ils se sont rendu compte aussi que les hommes avaient une plus grande facilité aussi de travailler avec ces choses-là. Et ça, c'est une chose qu'on s'en rend compte aussi à travers tous les espaces, en fait. Souvent, un standard féminin, en fait, ça apporte une augmentation de qualité de vie pour tout le monde. C'est aussi pour les espaces publics, par exemple les éclairages de parcs et tout ça. Quand on demande aux filles, aux jeunes filles, aux teenagers, comment il faudrait que le parc soit éclairé, comment il faudrait que le parc soit aménagé pour que tu te sentes bien, en sécurité, à l'aise, on s'est rendu compte que ça, c'est une mesure où ça devrait être un standard, parce que aussi les personnes âgées en profitent, les enfants en profitent, tout le monde en profite. Mmh. Donc, à mon avis, il faudrait vraiment prendre les jeunes filles de 14 à 17, 18 ans, leur demander ce qu'elles veulent, et ça voudrait augmenter la qualité de vie pour tout le monde. Mais ça, c'est aussi catégoriquement justement la démographie, que personne ne demande jamais son avis, et
puisque ce ne sont pas encore des électeurs, notamment. Tous ces sujets, ils sont à découvrir dans le détail dans un livre, Le patriarcat des objets, pourquoi le monde ne convient pas aux femmes. C'est paru en 2022, et ce sera aussi le sujet donc du mardi de l'égalité organisé ce mardi 12 mars. En votre compagnie, Rebecca Handler, vous êtes journaliste, autrice, podcasteuse et donc l'invitée de cette conférence qui commence à 18h au Tambour à Rennes. Sur place, on retrouvera la librairie Comment dire pour pourquoi pas se procurer un exemplaire de votre livre. Et on le dit au passage, vous avez aussi un podcast en allemand à découvrir sur Spotify, son titre Feminist Shelf Control, pour les auditeurs qui seraient germanophones. Merci beaucoup.
Merci.
Les héroïnes, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, on ne se quitte pas vraiment en musique, mais en slogan, avec un retour sur la manif et la grève féministe du 8 mars à Rennes. Bon week-end, à bientôt.
Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières. contre le capital et de l'enfectisme, de l'ensocial. Même combat contre le capital et de l'ensexisme,
de l'ensocial.
Et même combat contre le capital et de l'ensexisme,
de quoi ?
De l'ensocial.
Nous faisons la guerre.
En colère, on va pas se laisser faire. Féministe en colère.